Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Jaime et sa famille essaient de se professionnaliser au maximum avec l'accueil de touristes pour qu'ils puissent vivre des expériences assez uniques, mais tout en étant comme à la maison. Et donc, ils proposent tout un tas d'activités. Alors, tout d'abord, de l'accompagnement en haute montagne en tant que guide. Et Jaime et Denis, ils ont été formés par un Français qui avait l'occasion de venir, un montagnard qui venait régulièrement pour faire des sorties. En Bolivie, et qui a sympathisé avec eux et qui a monté dans le secteur une espèce de formation pour qu'ils puissent avoir un socle solide, en tout cas, de connaissances, à la fois techniques et en termes de sécurité pour accompagner des touristes. Et puis, ils proposent aussi des activités autour du tissage de la laine, lama, alpaga, et également de la pêche à la truite. On choisit de passer notre première matinée avec Marisol autour du process de tissage de la laine. Donc on prend un bon petit déjeuner, sauf June qui n'est pas très très en forme, elle a un peu mal au ventre. Et puis on sort dans l'enclos des lamas avec les autres hôtes qui sont là. Et Marisol va nous montrer comment on fait pour tondre le lama. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est le physique des Boliviennes. Elles ne sont pas filiformes, elles sont assez costauds, mais c'est normal parce qu'elles font vraiment des travaux qui sont assez durs et le climat aussi est rude. Et là, elles nous impressionnent. Donc Marisol est dans l'enclos avec une autre dame et puis il y a une jeune fille qui l'aide. Et elles vont attraper un lama, qui est énorme, par les pattes pour le coucher par terre, le retourner et le maintenir allongé. Donc il y en a une qui lui tient les pattes, deux par deux, et la jeune fille, elle est à genoux sur le cou de l'animal pour maintenir l'animal au sol.
Ah ouais.
Elles font ça en 2-3 mouvements. C'est juste impressionnant d'imaginer la musculature de ces femmes. Et là, elles nous montrent le process. Elles sortent un couteau. Moi, je pensais qu'on utilisait plutôt des ciseaux ou une espèce de tondeuse mécanique. Mais non, ça se fait au couteau pour enlever tout le duvet au plus proche de l'animal, mais sans non plus lui couper la peau. Elles nous font une démonstration, puis proposent à ceux qui veulent de le faire. Et chez nous, il y en a une qui se prend de passion de ça, c'est Violette, qui se met assidûment à tondre le lama avec le couteau. Et elle est vraiment très intéressée par ce qu'elle fait, très appliquée. Et pendant ce temps-là, il y a June qui observe tout ça et qui est assez choquée de la manière dont le lama est maintenu au sol. Il n'arrête pas de cracher parce qu'il n'est pas content. Et elle est en train de réfléchir à toute la notion de bien-être animal qu'elle partage avec nous. Mais c'est vrai que ici ou dans la plupart des pays dans lesquels on a voyagé, qui sont des pays en développement, bon, le bien-être animal, c'est pas du tout un sujet. Marisol nous fait faire un petit tour du village qui se résume à deux gros blocs de baraquements pour Jaime d'un côté et la famille de son frère de l'autre. Et puis les enfants, elles jouent avec la glace parce qu'en fait il y a des petites rigoles d'eau, il fait tellement froid que c'est tout gelé, donc elles s'amusent à casser la glace, à l'envoyer. Puis là June, elle dit qu'elle se sent de plus en plus mal et bon, elle se met à vomir. Et là on se dit mince, il y a peut-être un problème avec l'altitude. Ça fait quelques jours qu'on est à plus de 4000 mètres. Pourtant, on a été pas mal en altitude dans le Salar, mais on sent que là, elle le gère moyennement bien. Moi, ça m'inquiète pas trop parce que je me dis qu'on a le Diamox que les Français nous ont donné à Sucré quand on est arrivé en Bolivie. Et je dis, bon, on se laisse pas le choix, on va lui donner le traitement pour 3 jours. Elle est en train de nous faire un petit mal des montagnes. Après cette session, et avoir vu aussi les cochons d'Inde qui sont élevés par la famille, ils sont énormes ces cochons d'Inde, et c'est normal parce qu'en fait, en Bolivie, ils les mangent. Nous, on n'aura pas l'occasion d'en manger pendant notre séjour parce qu'ils n'en cuisinent pas pour les touristes, mais je me dis que ça doit être bien dodu et ça doit fournir quand même pas mal de viande. Et donc après ça, on rentre dans la maison et là, Marisol, elle nous installe dans une espèce de verrière qui est le salon qui est attenant à la cuisine. Et elle nous explique un petit peu les différents types de laine, le lama, après l'alpaga qui est plus doux et encore plus doux et plus rare, la laine de vigogne qui ressemble à un petit lama qui a le poil court. Et en fait, c'est une variété de lama sauvage qu'il est interdit de chasser. Mais évidemment, certains Boliviens le font. Et donc la laine est très rare, elle est très douce. Et donc les produits qui sont faits dans cette laine-là se vendent très cher. Et donc là, elle nous fait toute une démonstration de filage de la laine, comment on part de la touffe de laine et puis qu'on la presse et on la roule entre ses doigts pour commencer à faire un semblant de fil et ensuite comment on la file sur une bobine. Bon, on s'y essaye tous, mais ça a l'air hyper simple comme ça, mais c'est ultra technique et tout est fait à la main. Là, il n'y a plus que Swan, Violette et moi. June est partie se coucher parce qu'elle n'était pas bien. Et puis Daniel, il est parti jouer de la guitare, je crois, parce que le process de la laine, ça l'intéresse, mais bon, l'aspect manuel, ça ne le passionne pas. Donc, il est parti faire autre chose. Un peu des forces avec le déjeuner, June va beaucoup mieux, le traitement commence à faire effet et on part avec Jaime l'après-midi et Antoine pour une session de pêche à la truite dans un des lacs d'altitude. Là déjà il faut se mettre un peu au diapason avec les locaux, c'est que Jaime nous dit on va marcher un peu pour aller jusqu'au lac, mais en fait on randonne pendant à peu près 1h30. Et les enfants râlent pas mal, mais on leur dit oui, si vous voulez pêcher, il faut bien qu'on marche. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. Et puis quand on arrive là-haut, il y a pas mal de vent. Donc déjà qu'il fait pas très chaud, mais là, ça nous... Voilà, ce sont des conditions qui sont pas évidentes pour cette première session d'initiation de pêche. Daniel a déjà eu l'occasion de pêcher quand il était plus jeune, mais pour le reste de la famille, c'est vraiment une nouveauté. Donc Jaime nous explique comment enfiler le verre sur le hameçon et puis comment lancer la canne de manière à ce que le hameçon aille se mettre un peu loin dans l'eau et ensuite comment détecter qu'il y a un poisson mort et qu'on doit le sortir de l'eau. Et June se met en équipe avec Antoine parce qu'on n'a pas des cannes à pêche pour tout le monde et Violette se met avec Daniel. Alors bien sûr, on le sait tous, il faut de la patience pour pêcher. Mais alors, très vite, il y en a une qui décroche, c'est Violette. Ça l'agace, il se passe rien, on pêche rien, donc ça commence à l'énerver. Et elle vient me voir, je m'ennuie, j'ai froid, j'ai envie de rentrer. Ça, c'est vraiment une attitude qu'elle a toujours avec moi. Elle fait moins avec son père, évidemment, qui lui, pour le coup, il est à l'autre bout du lac, complètement concentré sur ce qu'il fait, avec un seul objectif de challenger en tête, c'est de choper du poisson. Moi, j'ai de la patience pour certaines choses, mais alors là, j'avoue que très vite, je perds patience. En fait, je me sens pas bien parce qu'il y a du vent, j'ai froid. Il y a Violette qui me tire sur la manche toutes les secondes. C'est pas des conditions très agréables pour cette première initiation à la pêche. Mais bon, j'essaie quand même de m'accrocher parce que j'ai bien envie de sortir un poisson. Dune, de son côté, elle est très contente avec Antoine. Il est hyper sympa avec elle, pédagogue, donc ils font chacun leur tour, ils balancent la canne. À un moment, elle est tellement motivée, elle prend tellement d'élan qu'elle finit même avec un pied dans l'eau. Et là, elle, ça la fait rire, avec Antoine, il rigole. Mais alors moi, je me dis, mon Dieu, vu la température qu'il fait, là, elle a mouillé sa chaussure, sa chaussette. Évidemment, on n'a qu'une seule paire de baskets hein, pour notre voyage. Ça va jamais sécher et elle va se attraper un gros rhume, quoi. Au début, elle dit qu'elle gère, donc c'est pas un souci. Moi, sincèrement, je commence à en avoir marre d'attendre que le poisson arrive. Violette insiste vraiment sur le fait qu'elle en a marre. Et puis June, au bout de 20 minutes, elle vient me voir en me disant « Je commence à avoir très froid aux pieds, donc je joue avec elle pour qu'elle enlève sa chaussure, qu'elle mette un gant à la place de sa chaussette mouillée. » Enfin, on essaie de trouver une solution. Bon, évidemment, elle aura froid toute la fin d'après-midi. Mais voilà, moi, je commence à en avoir marre, donc je vais me caler sur un côté du lac plutôt au soleil, à l'abri du vent, en attendant que chacun ait pêché au moins un poisson et qu'on puisse rentrer. Il y en a une qu'on n'entend pas, c'est Swan. Swan, elle est à fond. En fait, elle a vraiment un tempérament de challengeuse. Donc, elle est comme son père. Je sens qu'on ne pourra pas bouger tant qu'ils n'auront pas pêché de poisson. Ils changent d'endroit du lac, Raimé leur dit « Bougez, on n'a pas de chance aujourd'hui, il y a du vent, on va peut-être aller sur l'autre côté. » Et puis elle finit par en attraper un, puis deux. Enfin, c'est l'éclate, elle est trop heureuse et puis il y a l'appât du gain d'en avoir pêché un, puis deux. Elle se dit « Je vais en pêcher trois. » Et puis son père, qui n'en a pas pêché, ça le challenge encore plus. Et puis moi, il y a un moment où je vrille. En fait, je suis là assise, j'ai froid, mes deux filles plus jeunes ont froid. Elles me font sentir et verbalisent carrément qu'elles en ont marre, qu'elles veulent rentrer. Et moi, j'en peux plus. Donc je me lève, je dis à Daniel que je vais redescendre parce que j'en peux plus. Il vient me voir et je lui fais un câlin parce que je lui dis, je sais pas, je suis en perdition, quoi. Et je me mets à pleurer, mais je lui dis « Bon, ça va aller, je redescends, je connais le chemin. » Et on commence à descendre, et moi, je sens en fait que j'ai lâché un truc dans le corps, quoi. J'ai une émotion de ras-le-bol, et c'est une des très rares fois où ça m'arrive dans le voyage, parce qu'en fait, à ce moment-là, je me dis que je suis dans un endroit extraordinaire. Je vis quelque chose d'assez unique, et j'arrive pas à me réjouir et à profiter de l'instant présent. Je suis trop mal. Donc je pleure un bon coup, je descends avec les enfants et puis c'est vrai que c'est le coucher de soleil, je me rattrape à la beauté de cette lumière. Mes filles, elles sont là, elles sont en train de me remonter le moral en me disant « ça va aller maman, tout va bien ». Et puis on redescend tranquillement dans le chemin et il y a la voiture de Jaime qui a été montée par son fils, je crois, qui est garée un peu plus loin sur un chemin et la voiture est ouverte, donc on se met dans la voiture et on attend les autres. Rien que de se mettre à l'abri dans cette voiture, moi, ça m'apaise. Les filles se réchauffent un peu parce qu'il n'y a plus de vent. Dune enlève ses chaussures mouillées, enfin sa chaussure mouillée. Et puis, on attend une petite demi-heure que les garçons descendent avec Swan. Et c'est super parce qu'on les voit arriver. Ils sont en train de ramener en même temps le troupeau d'alpagas qui sont en train de redescendre de la colline. Et c'est super à voir, ils ont l'air super contents. Et quand ils rentrent dans la voiture, c'est vrai qu'il y a une excitation quoi, de se dire « on a pêché la truite, on a ramené les bêtes ». Et moi, ça me fait plaisir de les voir heureux et ça efface le mal-être que j'ai pu avoir sur une partie de l'après-midi.
Allez ! Allez !
Papa le berger. Allez, rentre dans son enclos. Hop, hop, hop. Ouais.
Allez, allez.
Hop, hop, hop.
Allez,
hop. Oh, lui, tête.
Allez.
C'est pas le moment, guys. Manger, c'était C'est tout à l'heure. Oh. Ouais. Voilà. Et il fait quoi? Tu fais quoi toi? Oui. Oh. Et eux c'est séance pipi quoi. Hop. Je t'ai dit manger, c'était plus tard là.
Allez, allez. C'est parti.
Barrière.
Ouais.
Et bien voilà, voilà la barrière.
Bah, il vient vérifier.
Ah,
il y en a.
Attends,
c'est pas fini.
Ah,
oh,
il y en a deux, les coquins.
Il leur attrape pour réouvrir. Bah,
écoute,
non, il faut leur ouvrir la porte pour quand ils arrivent.
À ce stade-là, on a noué un lien particulier avec Antoine, avec qui on a pas mal discuté, qui dans toutes les activités avec nous. Donc il dit, j'ai un peu l'impression de faire partie de la famille, et c'est un peu le sentiment qu'on a également. Puis c'est passionnant de discuter avec lui, parce qu'il a beau avoir 20 ans de moins que nous, mais il nous raconte son périple. Il est allé faire tout un périple en Europe de l'Est à vélo, avant de rejoindre l'Argentine et remonter l'Amérique du Sud en partie en stop. Enfin, il nous raconte de ses anecdotes pas possibles, il nous fait beaucoup rire. Et c'est super parce que nous, on partage aussi notre expérience et on sent qu'on se nourrit les uns les autres de nos parcours. Et c'est super de se rendre compte qu'il n'y a pas de barrière d'âge, ni dans un sens, ni dans un autre. Quand on rentre au logement, là, on a une belle surprise, c'est qu'on retrouve deux nouveaux hôtes et on les connaît. C'est Nick et Lucie, donc un jeune Américain et une jeune Française qu'on avait rencontrés dans le salar. En fait, ils étaient dans l'équipage de jeunes de l'autre 4x4 qui nous suivait et c'était des copains de Sigrid. Donc c'est rigolo de se retrouver là et c'est sympa de se retrouver en petit comité parce que dans le salar, l'ambiance était quand même un peu différente. Il y avait quelques tensions et on n'avait pas eu trop l'occasion de faire connaissance. Nos filles sont trop contentes, super excitées, comme si c'était très important de pouvoir se dire qu'on peut retrouver, revoir des gens, créer des repères au milieu de nulle part avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Toujours est-il qu'ils sont venus ici parce qu'ils veulent faire au moins deux ascensions de pic dans le coin et ils veulent s'acclimater petit à petit à l'altitude et à la randonnée sur ces longues distances. Et donc, nous, il y a un sujet auquel on réfléchit depuis notre arrivée, c'est qu'on se dit que c'est l'occasion d'aller faire une ascension d'un pic assez haut. Mais on se tâte à le faire en famille, on se demande si c'est vraiment une bonne idée. L'ascension qu'on envisage, c'est celle du Pico Austria, qui est à 5200 mètres. Donc en termes de dénivelé, c'est pas énorme, c'est 1100 mètres. Mais c'est vrai que c'est l'altitude quoi, qui est importante. Jaime nous dit qu'il a déjà fait ça avec des familles. Nous, on se demande si c'est vraiment une bonne chose. June, elle fait un peu le mal des montagnes, mais bon, c'est vrai que le traitement fonctionne bien. On s'est habitué à l'altitude depuis à peu près 3 semaines qu'on est en Bolivie, donc on se dit, ça nous botte quand même. Et puis, David et Allison ont fait l'ascension 2 jours avant. Ils nous ont dit que c'était pas compliqué et que c'est vrai que c'était une belle expérience. On finit par se décider à le faire en famille. Et donc on part le lendemain de bonne heure avec les sandwichs dans le sac et on se tasse à 8 avec les jeunes dans la voiture de Jaime pour aller au départ de la randonnée. On a beaucoup de chance parce qu'il fait un temps magnifique. On commence l'ascension. Au début ça grimpe pas mal, ensuite il y a toute une phase de plat sur une ligne de crête. Et ensuite on repart dans une ascension qui est assez pentue. Et là, le terrain commence à se dégrader. Au fur et à mesure, on va tomber dans une espèce de pierrier. Et ça devient psychologiquement de plus en plus difficile. À cela, bien sûr, se rajoute le fait qu'on a de moins en moins d'oxygène. Donc on sent que le corps est ralenti, qu'on a un peu plus de difficultés à respirer. En même temps, on a un bon entraînement parce qu'on a pas mal marché depuis le début de notre séjour en Bolivie. Mais c'est quand même assez long. Et je pense que le moment qui va commencer à être vraiment difficile, c'est les 100 derniers mètres de dénivelé. Ça fait 2h45 qu'on monte. Swan et June gèrent plutôt bien. Swan marche devant avec Nick et Antoine. Je pense que ça lui donne l'énergie pour avancer. Elle a ce côté challenger, donc elle y va. June, elle est plutôt à mon niveau, mais elle gère bien aussi. Elle se motive, il n'y a pas besoin de l'encourager tous les 2 mètres. Elle s'en sort plutôt bien. Et par contre, Violette est avec Daniel et elle a de plus en plus de mal. Elle nous demande à faire des pauses de plus en plus régulières, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête trop longtemps. Donc Raimé, il nous dit « Attention aux pauses, il ne faut pas s'arrêter longtemps, il faut continuer, sinon vous n'allez jamais réussir à monter. » Et Violette, elle nous dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle est de plus en plus fatiguée. Et en fait, elle nous dit « Je veux me coucher là sur le chemin et vous me prenez au passage quand vous redescendez. » Alors les premières fois où elle nous dit ça, on lui dit « Mais non, t'inquiète pas, tu vas y arriver. » Et là, on voit le sommet en fait. On est à 100 mètres en dénivelé, mais ça nous paraît si loin. Et puis au bout de la 4e fois, Daniel dit « Bon, ok, je vais te porter. » Donc il essaye de porter Violette, mais en fait, il fait 3 pas. Il la repose, c'est impossible. Avec l'altitude, il a sous-estimé sa force, mais c'est pas possible physiquement. Elle finit par fermer les yeux, on lui prend chacun une main, il y en a un qui la tire, l'autre qui la pousse, et petit à petit, pas à pas, on arrive à la monter jusqu'en haut du Pico Austria. On rejoint Swan qui était devant avec les jeunes, et là c'est un spectacle époustouflant. Il y a une vue de dingue, on voit à 360 des montagnes, de la neige, des lacs. C'est sublime. Et ouais, moi j'ai cette sensation du dépassement de soi, d'être allé vraiment très très loin, que j'ai déjà vécu cette année parce que j'ai fait, avant de partir en voyage, un raid en ski de rando autour du Mont Blanc. Et puis j'avais fait aussi un trail assez important. Mais là, c'est en famille. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et je me dis que ce qu'on vit là est complètement unique. Ce dépassement de soi, cette ascension à 5300 mètres, ouais, c'est quelque chose, on a vraiment conscience qu'on ne vivra qu'une fois dans notre vie, en famille en tout cas. J'ai cette vive émotion en moi, et puis là Raimé arrive, il félicite tout le monde, il tape dans la main de tout le monde. Mes filles, elles sont tellement fières d'elles, je le vois dans leur regard, il y a l'œil qui pétille. Tous les adultes leur disent « Bravo, c'est génial ce que vous avez fait !» C'est un moment incroyable, mais qui ne dure pas très longtemps. On mange vite les sandwichs parce qu'il fait vraiment froid. Et puis, il faut qu'on ait de la force pour redescendre. Daniel, lui, il est dans un vécu qui est un peu mitigé. Parce qu'en fait, on capte au niveau du réseau sur ce Pico Austria. Et là, on a eu un coup de fil d'une de nos copines qui a pris le relais de la gestion des inscriptions de nos enfants au collège. Et il y a une urgence absolue à lui envoyer un document. Donc, il se retrouve à la rappeler. Il arrive à la joindre malgré le décalage horaire. Et le voilà qui va chercher dans son téléphone, le cloud, les documents qui vont bien pour envoyer les justificatifs à Magali, notre copine, pour qu'elle puisse aller au collège avec tous les documents et être sûr que nos enfants soient inscrits pour la rentrée prochaine. Et ça, ça lui gâche le moment. Voilà, il me dit ça m'a vraiment gâché l'instant. On prend quelques photos et puis on amorce la descente. Et là, sur le retour, pour Violette, ça se passe très bien. June, elle a un petit peu mal au genou. Et puis alors, c'est Swan qui va pas bien. Je ne sais pas si elle fait une espèce de décompensation de l'effort qu'elle a fourni à l'aller ou qu'elle a pris un coup de froid, mais elle se met à avoir un dérangement intestinal assez fort. Et là, sur la descente, il faut qu'elle s'arrête toutes les 10-15 minutes pour se vider. Et c'est très difficile pour elle.
Merci.
Oh non. C'est parfait.
Attends.
Bien, bien.
Swan, c'est une enfant, quand elle va bien, elle est à fond. Mais s'il y a quelque chose qui la dérange physiquement, elle peut vite se mettre en mini-déprime. Et là, c'est ce qui se passe, ça lui met un coup au moral. Et elle se met à pleurer, elle dit « c'est pas possible, comment je vais gérer, je voudrais être déjà en bas ». Et là, il faut que je l'accompagne psychologiquement sur toute la descente. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident pour elle. On finit par retrouver la voiture, on est soulagé. Swan se met cette fois-ci sur le siège arrière et pas dans le coffre parce qu'elle gère pas en termes de position. Et on rentre à la maison. Là, on est tous épuisés, je dirais même complètement hagards. D'ailleurs, la soirée se passe vite. Swan, elle se couche dès qu'elle rentre. Elle se lève même pas pour dîner. Plus, elle en peut plus parce que il y a qu'un toilette dans cette maison. Et il donne sur la salle à manger. Donc à chaque fois qu'on va aux toilettes, tout le monde voit, limite entend, parce que la porte, elle protège pas bien. Et elle fait ses allers-retours et puis elle en peut plus. Elle finit par se coucher à moitié en pleurant, en disant « j'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi ». Et les deux petites, elles mangent un tout petit peu de soupe, je crois, et puis elles vont direct se coucher. Elles n'ont même pas la force de manger le dîner en entier. On se dit que c'était le bon timing en immersion dans cette famille. Mais là, on a besoin de retrouver un peu de confort d'hébergement en famille. Le lendemain, on fait nos bagages, on dit au revoir à tout le monde, on remercie chaleureusement Marisol et toute sa famille de nous avoir accueillis. Et Jaime nous conduit sur l'Altiplano à un arrêt téléphérique pour qu'on puisse rejoindre le centre de La Paz en téléphérique et pas en bus. Le bus, je crois qu'on a, ça y est, définitivement, on a saturé. Et on se dit que c'est sympa d'expérimenter ce nouveau moyen de transport qu'on n'a pas encore expérimenté, qui est le téléphérique, et qu'il y a beaucoup dans ces villes d'altitude pour pouvoir accéder plus facilement à destination. C'est assez génial, en fait, de survoler la ville pour rentrer dans le centre-ville. C'est comme dans une station de ski, mais sans les pistes. Et là, par contre, on a un arrêt d'urgence à faire parce que Swan, elle est prise à nouveau de problèmes de ventre. Il faut qu'on sorte. Elle me dit, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Donc, on sort en urgence à un arrêt. Je cours dans les escaliers avec elle. On trouve une policière qui arrive à nous ouvrir une porte. Enfin, bref, il nous donne accès aux toilettes de la station du téléphérique, mais qui est dédiée à l'administratif. Mais ils voient qu'on est en perdition. Moi, je me suis fait comprendre et elle nous rend ce service. Et je me dis, mais une fois de plus, qu'est-ce que les gens sont gentils en Bolivie. Vu l'état de Swan, quand on arrive au dernier arrêt téléphérique, là, on prend direct un taxi et on se fait déposer devant un hôtel qu'on avait repéré sur Booking, dont on avait vu qu'il avait des chambres disponibles, mais qu'on n'a pas réservé. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là du voyage, on rigole et on se dit qu'on est vraiment en roue libre. On improvise. Et on essaye de négocier le tarif avec le gars de la réception parce qu'en fait, on a un avion à 3h du matin. Donc, on veut une chambre pour pouvoir se doucher, se réchauffer, préparer nos sacs. Mais on repartira vers minuit de l'hôtel parce que c'est un vol international vers notre dernière destination. Et on ne va pas y passer la nuit complète. On obtient une chambre familiale confortable avec une bonne douche bien chaude. Et là, on passe une grosse partie de la journée dans la chambre. On sort quand même le midi et le soir pour aller manger un morceau. Et dans l'après-midi, les filles, elles restent au chaud après une bonne douche, dans leur lit, à bouquiner. Et Daniel et moi, on en profite pour aller faire quelques emplettes dans le marché aux sorcières qui est dans le secteur, où il y a pas mal de petites échoppes touristiques. Mais les filles, elles n'avaient pas envie de venir avec nous, déjà parce qu'elles n'avaient pas envie de sortir. Et puis, elles avaient un petit peu aperçu le marché aux sorcières. C'est un peu curieux. Elles vendent notamment des fœtus de lama, soit dans du chloroforme, soit séchés, qui sont suspendus dans les boutiques. Et ça, les filles, ça les a pas mal dégoûtées. Donc, on part sans elles et on se dit que c'est pas plus mal parce que ça nous fait aussi un petit échappatoire, tous les deux. Les filles et moi, nous nous endormons assez tôt dans la chambre. Et puis le réveil sonne à minuit, après 3 heures de sommeil. Daniel, lui, il n'a pas dormi. Et là, il faut se réhabiller, prendre les sacs, descendre à la réception, prendre notre taxi pour aller à l'aéroport. Et là, on est sur notre dernier voyage de nuit pour aller dans notre dernier pays de ce tour du monde, c'est la Colombie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un Petit Tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 32 sur le début de notre voyage en Colombie. À bientôt!